Chapitre 9. Témoin de Jésus-Christ. Fête de Saint-Denis, 9 octobre. C'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré dans le Christ Jésus. Je vous en prie, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Saint Paul ne dissimule pas la fierté qu'il éprouve d'avoir communiqué à d'autres âmes sa foi en Jésus-Christ. Des orateurs plus brillants ou plus considérables que lui ont pu venir dans l'église de Corinthe prêcher l'Évangile aux fidèles qu'il avait convertis. Auraient-ils eu des milliers de maîtres pour leur parler du Christ? Ils n'ont pas eu plusieurs pères. C'est lui, Paul, qui les a engendrés dans le Christ. De ce fait, il tire une conclusion. « Soyez mes imitateurs. » Dans l'Épître aux Hébreux, il reprendra la même idée. « Souvenez-vous de vos chefs, de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérant l'issue de leur carrière, imitez leur foi. » Chapitre 13, verset 7. Le bonheur d'être chrétien n'est vraiment goûté que si on le partage avec d'autres. En réalité, le chrétien isolé est un mythe, et cela nous rassure quand nous pensons à notre départ d'ici-bas. Qui ne sombrerait dans le désespoir à la pensée d'affronter tout seul l'infinie majesté de Dieu? Le chrétien isolé n'existe pas. Il est membre du Christ, il fait partie de son Église, et c'est comme tel qu'il se présentera devant Dieu. Cependant, la sécurité que nous procure notre appartenance à l'Église nous impose le devoir corrélatif de travailler à son accroissement et à son perfectionnement. En nous accordant le salut, Jésus-Christ nous oblige à dépasser le souci de notre sort individuel et à étendre avec lui le royaume de Dieu sur la terre. Une religion intéressée est vaine, car quiconque n'amasse pas avec lui, dissipe. Nous ne sauvons qu'en nous efforçant de sauver nos frères. Cette leçon, nous l'entendons aujourd'hui de celui qui fut notre père dans la foi, notre premier évêque, Saint Denis. En célébrant l'anniversaire de son martyre, nous lui offrons sans doute un hommage de gratitude et nous ne négligerons pas de nous recommander devant Dieu de ses mérites, mais nous venons encore répondre à son appel. Lorsque nous ressusciterons à la voix de l'archange, c'est lui qui conduira à la rencontre du Seigneur l'Église parisienne qu'il a engendrée dans le Christ, Jésus. Aujourd'hui, notre chef passe ses troupes en revue. Il va inspecter les nouvelles recrues qu'il veut conduire à la victoire et constater ce qu'est devenu son Église. Il présente à nos regards le martyre qu'il a enduré pour Jésus-Christ, afin qu'imitant sa foi, nous agitions notre témoignage au sien. Un jour, sur le territoire que nous habitons, un homme annonça pour la première fois l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce fait a marqué notre vie. Après tout, le christianisme né en Palestine pouvait aussi bien se répandre d'abord dans les pays de l'Est. En ce cas, les peuplades perdues à l'extrême pointe de l'Europe seraient restées pendant des siècles dans l'ignorance du vrai Dieu. Mais parce qu'au moment où son fils vint habiter notre terre, Rome était la métropole du monde civilisé, c'est vers l'Occident que se sont portés les missionnaires de l'Évangile. Au milieu du IIIe siècle, les assises religieuses de la Gaule étaient formées de deux couches d'inégale épaisseur. Un polythéisme naturaliste en était la plus profonde. La piété de nos ancêtres avait divinisé les forces de la nature, disons à leur décharge qu'ils ne représentaient pas leur Dieu sous des traits humains, mais seulement par des emblèmes symboliques. Ils vénéraient particulièrement les puissances mystérieuses qui alimentaient sans cesse leurs sources et leurs rivières, ainsi que les divinités sylvestres. Le culte des arbres donnait lieu à la fameuse cueillette du gui, lequel, n'étant pas le fruit normal du chêne, leur paraissait doué d'une origine merveilleuse, tandis que sa perpétuelle verdeur était un symbole d'immortalité. Le gui ne pouvait être coupé qu'au premier jour du mois lunaire par la faucille d'or des druides vêtus d'une robe blanche. Ceci constituait un clergé parfaitement organisé, avec sa hiérarchie, son noviciat et ses assemblées régulières dans le bois des Carnutes. Ils professaient une doctrine très ferme sur la vie future, et en même temps qu'ils enseignaient les prescriptions de la morale, ils en surveillaient l'observation, car ils exerçaient eux-mêmes la justice. Je ne mentionne ces détails qu'afin d'expliquer pourquoi saint Thomas d'Aquin signalera dans le druidisme gaulois la préparation providentielle du pays où la religion du sacerdoce chrétien serait la plus florissante. La conquête romaine porta un coup mortel à l'antique religion des Gaulois. On ne saurait reprocher à Tibère de leur avoir interdit les sacrifices humains, mais l'habile politique qui voyait dans la corporation des druides une autorité rivale de la sienne en ordonna la dissolution. Les druides disparus, les divinités romaines importées par le conquérant se superposèrent puis se substituèrent aux dieux celtiques. Cette seconde couche d'un paganisme inférieur à l'ancien détermina, surtout dans les centres urbains, une régression religieuse des populations qui, sans avoir encore dépouillé toute barbarie, s'assimilait la civilisation romaine avec les vices annonciateurs de sa prochaine décadence. C'est à ce paganisme à 2 degrés que Denis dut faire face lorsqu'il eut planté sa tente aux abords de la coquette petite ville de Lutèce. Les indigènes commencent par observer cet étranger qui n'est ni fonctionnaire ni marchand. Il vit modestement, rend des services et se fait aimer. À quelques-uns, il confie qu'il est l'envoyé de Jésus-Christ. Un nouveau Dieu? Non pas, mais le seul vrai Dieu qui s'est fait homme pour faire de nous des fils de Dieu. Qui ne sourcillerait à de telles affirmations? Plusieurs, cependant, se laissent persuader, car la sainteté de ce Dionysos leur paraît un gage de sa sincérité. Cependant, ces discours éveillent les méfiances du plus grand nombre. À ces gens qui croient ce que croyaient leurs ancêtres, Denis déclare qu'ils sont dans l'erreur et que le Christ doit remplacer leur faux Dieu. Il y a plus grave, il s'abstient de brûler l'encens devant l'image de l'empereur. Avec cela, il préconise un programme de vie qui bouleverse leurs habitudes. Son Christ réprouve la polygamie, condamne le mensonge et l'avarice. L'édit d'Aurélien, proscrivant le culte chrétien, met fin à point nommé aux agissements du doux étranger qui professait cette doctrine sévère. Denis est dénoncé, ainsi que 2 autres chrétiens. Le nombre des baptisés que l'évêque réunissait autour d'un autel pour la célébration des saints mystères n'était pas considérable. Combien d'adeptes a-t-il fait? Assez pour porter devant eux le témoignage qui implanterait définitivement le christianisme parmi les parisiens. Les 3 accusés refusent de sacrifier dans le temple de Mercure. Ils sont immolés sur place. Sous la hache qui lui trempe la tête, l'évêque Denis donne la preuve de sa foi. Plutôt que de la renier, il préfère renoncer à ce monde, car il est certain de vivre éternellement avec le Christ ressuscité. Pesons attentivement la valeur de ce témoignage. La mort des martyrs n'établit pas la vérité d'une doctrine, puisque des hommes sont capables de sacrifier leur vie à des convictions erronées. Elle prouve la vérité d'un fait. Les martyrs sont des témoins. Or, on ne peut témoigner que d'un fait. Je crois volontiers noter Pascal, les histoires, non les idées, dont les témoins, non les partisans, se font égorger. Notre foi chrétienne repose sur un fait de la résurrection de Jésus, preuve suprême de sa divinité. Les apôtres avaient été les témoins oculaires de ce fait, et ils avaient accepté de mourir pour en attester leur certitude. De cette certitude, les disciples des apôtres ont témoigné à leur tour. Prenons un exemple. L'évêque d'Antioche, saint Ignace, martyrisé à Rome en l'an 107, écrivait avant son supplice: « Je cherche celui qui est mort pour nous. Je veux celui qui est ressuscité à cause de nous. » Or, Ignace n'a pas constaté ces 2 faits, mais il a entendu les apôtres de Jésus affirmer l'événement prodigieux de la résurrection de leur maître. Ignace écrit en effet aux chrétiens de Smyrne : « Je sais et je crois que même après sa résurrection, Jésus avait un corps. Quand il s'approcha de Pierre et de ses compagnons, il leur dit : « Tenez-moi et touchez-moi, et voyez que je ne suis pas un esprit sans corps. » Vous aurez remarqué ces deux verbes « je sais » et « je crois ». Ignace croit parce qu'il sait. Pierre a subi la mort pour certifier ce fait. Ignace va au-devant d'elle pour attester ce qu'il avait appris de Pierre. Et lorsque saint Polycarpe, disciple d'Ignace, mourra martyr à Smyrne en l'an 155, il contresignera les deux témoignages d'Ignace et de Pierre. Ainsi, d'une génération à l'autre, nos martyrs s'offrent à mourir, non seulement parce qu'ils sont convaincus de la vérité de la doctrine chrétienne, mais pour garantir le fait de la divinité de Jésus-Christ sur lequel repose notre foi. Il est digne de remarque que le christianisme n'a jamais été introduit sur une terre païenne sans que des missionnaires n'aient eu à fournir le témoignage du sang. La préface de la messe de cette fête souligne que si Denis et ses compagnons semèrent la parole de Dieu parmi nous au prix de leurs travaux, cette semence a été rendue féconde par l'effusion de leur sang. Les ouvriers de la rédemption suivent les traces du Sauveur et mêlent leur sacrifice au sien. Le grain de blé doit tomber dans la terre et y mourir pour porter du fruit. Quelques années avant le martyre de saint Denis, Tertullien en Afrique bravait avec sa foule coutumière les magistrats persécuteurs. Condamnez-nous, tourmentez-nous, broyez-nous. Votre injustice prouve notre innocence. Vos cruautés les plus raffinées ne servent de rien. Nous nous multiplions à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. Le sang des trois premiers martyrs parisiens a porté ses fruits. Aujourd'hui, la basilique où une adoration ininterrompue s'élève vers Dieu se dresse sur le sommet de la montagne des martyrs, dominant les dômes et les clochers de la cité et de ses faubourgs. La petite communauté chrétienne du IIIe siècle est devenue l'une des plus célèbres églises de la chrétienté, l'église de Sainte-Geneviève et de Saint-Louis. Au Moyen Âge, tandis qu'à Rome, l'on guerroie et l'on bataille, l'université de Paris est communément appelée le Concile permanent des Gaules. Lorsque le schisme déchire la chrétienté, c'est de Paris que Gerson mène la lutte pour l'unité de l'Église. Hélas, cet avertissement providentiel n'a pas été entendu. La réforme religieuse réclamée par les saints est toujours différée. Dieu permet alors la douloureuse sécession du protestantisme qui arrache au Saint-Siège la moitié de l'Europe. Mais par une nuit d'août 1534, la veille de l'Assomption dans la chapelle érigée sur le lieu où Denis fut décapité, Ignace de Loyola, François-Xavier et cinq autres étudiants de l'Université de Paris consacrent leur vie à la défense du dogme catholique. L'église de Saint-Denis, illustrée par un Vincent de Paul, connaîtra de tristes jours à l'époque révolutionnaire. Au cours du siècle dernier, deux de ses archevêques tomberont victimes de l'émeute. Elle n'a rien perdu cependant de sa vitalité. N'avons-nous pas sous les yeux le spectacle de sa foi et de sa charité? Mais c'est à nous maintenant d'écrire notre page dans cette histoire. Si nous entendons l'appel de celui qui nous a engendrés dans le Christ Jésus, je vous en prie, soyez mes imitateurs. À l'heure actuelle, les visiteurs étrangers sont unanimes à admirer le comportement des catholiques parisiens, leur piété qui sait être grave sans paraître morose, le soin qu'ils prennent d'approfondir les vérités de la foi, leur volonté d'y accorder totalement leur vie. Sans doute ces éloges ne visent-ils qu'une faible minorité par rapport au nombre des baptisés. Du moins cette minorité agissante existe-t-elle et nous pouvons d'autant plus nous en réjouir que ce progrès qualifié n'est pas seulement notre œuvre. Nous le devons pour une grande part à la prière, à la sainteté et au sacrifice des générations antérieures. Ne nous enorgueillons n'avions jamais de notre vertu comme si nous l'avions acquise par nos seuls efforts. Outre la part prépondérance de la grâce, elle est le résultat des mérites d'autrui, au moins autant que des nôtres. Un chrétien ne fait pas son salut isolément. Il est aidé par les prières de toute l'Église et par les mérites des saints. Il doit également s'efforcer de faciliter aux autres l'accès aux moyens providentiels qui le sauveront. Un chrétien ne se sauve qu'en sauvant ses frères. Il se sanctifie grâce à l'Église, mais aussi en rendant plus sainte l'Église tout entière. Et comment le problème de l'évangélisation de nos concitoyens ne surgirait-il pas de nouveau à notre esprit lorsque nous observons que de nos jours, il existe à Paris beaucoup plus de païens que n'en comptait Lutèce au temps de Saint-Denis, et de païens plus récalcitrants à la grâce, car ce sont le plus souvent des apostats. Cependant, l'exemple de notre Père dans la foi nous enseigne qu'au témoignage de notre parole et notre vie peuvent donner aux non-croyants de la beauté, de la vérité, de l'urgente actualité de l'Évangile, doit s'ajouter une forme d'apostolat plus intérieur qui confère au prosélytisme toute son efficacité. Ce qui féconde les travaux de l'évangéliste, c'est le sacrifice qu'il fait de sa vie à Jésus-Christ, et ce martyr rend témoignage à sa divinité. D'un mot, pensons-nous à accroître la sainteté de notre Église? Il existe entre tous les baptisés, et par eux indirectement entre tous les hommes, une solidarité surnaturelle qui fait bénéficier la communauté chrétienne, et par contre-coup la communauté païenne, des efforts méritoires de chacun. La prière assidue de quelques-uns compense devant Dieu le défaut de piété des autres, même jusqu'à réparer les blasphèmes. Les dettes des pécheurs peuvent être diminuées par l'héroïsme obscur de fidèles ignorés. Cette reversibilité des mérites faisait dire à saint Augustin « Notre sainteté est collective, les vertus de l'un font la grandeur des autres et tout sera à tous dans l'unité. » Au vrai, une seule sainteté circule dans tous les membres du corps mystique, la sainteté même de Jésus-Christ qui doit déborder de nos âmes pour rejaillir sur nos frères. Par nous, la charité de Jésus-Christ doit se répandre sur la terre au profit de ceux qui sont spirituellement plus pauvres. Pensons-nous que notre christianisme atteindra plus sûrement les païens et les chrétiens oubliés de leur baptême si notre Église de Paris, au milieu de laquelle ils passent ou vivent indifférents, gagne chaque jour en sainteté? La tâche primordiale des chrétiens est l'évangélisation du monde. Or, saint Denis nous rappelle que pendant cette messe, nous avons à unir comme lui notre sacrifice à celui de Jésus-Christ, et que cette offrande a une valeur d'apostolat. Unir volontairement et généreusement au sacrifice du Christ une vie de malade ou une vie d'épreuve, et pour tous une vie mortifiée, constitue un don total de soi par lequel le chrétien affirme sa foi à la mort et la résurrection du Sauveur. Il donne tout à celui qui est tout pour lui, et ce faisant, il rend l'Église plus simple et par conséquent plus conquérante. Voici ce qu'écrivait un des chrétiens qui ont fait le plus d'honneur à l'Église de Paris, Frédéric Ozanam. Ne sommes-nous pas comme les chrétiens des premiers temps, jetés au milieu d'une civilisation corrompue et d'une société croulante? À des maux égaux, il faut un égal remède. La terre s'est refroidie, c'est à nous, catholiques, de ranimer la chaleur vitale qui s'éteint. C'est à nous de recommencer aussi l'ère des martyrs, car être martyr, c'est chose possible à tous les chrétiens. Être martyr, c'est donner sa vie pour Dieu et pour ses frères, c'est donner sa vie en sacrifice, que le sacrifice soit consommé tout d'un coup, comme l'Holocauste, ou qu'il s'accomplisse lentement et qu'il fume nuit et jour comme les parfums sur l'autel. Être martyr, c'est donner au ciel tout ce qu'on a reçu, son or, son sang, son âme tout entière.